t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, locataire oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde à nouveau la parole. Le processus électoral 2013-2016 en RDC a atteint sa vitesse de croisière avec la publication lundi 26 mai dernier du calendrier des élections municipales et locales. Ce calendrier rendu public par le président de la CENI, Abbé Apollinaire Malumalu, prévoit en une seule année, 2015, trois élections pour doter prochainement les entités locales de nouveaux dirigeants. Les grandes lignes de ce calendrier électoral qui va de juin 2014 et qui s'étale sur 18 mois prévoit plusieurs activités, entre autres l'examen au Parlement de l'annexe de la loi électorale portant répartition des sièges. Nous en parlons dans cette émission, dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, avec comme question principale: comment jugez-vous ces chronogrammes de la CENI et que faudrait-il faire pour le respect du calendrier? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net et vous avez la possibilité de nous appeler au 081 890 63 15. Dieudonné Nyangasa est à la mise en onde. Noëlla Luzitoua sur la réalisation. J.R. Lungembo coordonne et présente ce programme supervisé par Nicole Ngaka. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous.
Ils sacrifient leur vie au nom de la paix depuis 70 ans. Ils n'ont qu'un seul devoir: servir les peuples et les nations au conflit. Ils sont intervenus jusqu'ici dans 70 missions à travers le monde. Ils n'ont qu'un objectif: installer le dialogue et repousser les frontières de la violence. Rendons hommage à leur engagement. Le 29 mai, Journée internationale des casques bleus.
Voilà, je disais tantôt là, ce calendrier s'étale sur 18 mois. Il entre en activité à partir du 10 juin au 9 juillet 2014 avec l'accréditation des observateurs et ses clôtures avec l'installation le 5 novembre 2015 des maires et des maires adjoints. Alors, plusieurs activités de la CENI sont à réaliser durant ces 18 mois, entre autres l'examen au Parlement de l'annexe de la loi électorale portant répartition des sièges, audit externe du fichier électoral, dépôt des candidatures, affichage des listes des électeurs par site et bureau de vote au moins un mois avant les élections municipales et locales. Voilà, nous avons déjà en ligne des auditeurs qui ont pris l'inscription pour participer à ces débats. Omar, vous êtes à Kinshasa, Franck à Vienne et puis Mathieu à Kananga. Omar, bonjour.
Bonjour JSD, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Pacifique.
Alors, comment jugez-vous ces chronogrammes présentés par la CENI? Que faudrait-il faire pour le respect du calendrier?
Merci beaucoup JR. Je commencerai par cette maxime de Bonaparte qui disait: les élections sont un facteur très important de la cohésion et du développement d'un État. Alors je voudrais que tout le monde s'y penche avec sérieux et je félicite la Radio Capi pour y avoir pensé. Par rapport au chronogramme, je tiens d'abord à féliciter la CENI. C'est vrai que toute œuvre humaine a des imperfections, mais dans un peu de temps, on a quand même présenté un chronogramme digne de confiance. Par rapport à sa mise en place, moi je pense que cela s'est fait dans la légalité car en droit, les vides juridiques n'existaient pas. Il faut voir la tardivité dans laquelle ces bureaux ont été mis en place. Et dans ces plus du temps, avec beaucoup de technicité, on ne peut que soutenir et demander à ceux qui ont mis les calendriers de le respecter. Par rapport à la nécessité des élections urbaines, locales et municipales, nous ne cesserons de les dire hier. Sur le plan juridique, il faut impérativement organiser ces élections et ces calendriers à sa raison d'être. Pourquoi? Parce qu'en 2007, notre pays a voté plusieurs lois sur la décentralisation. Et ces lois ont déjà institué la mise en place des organes que nous devons élire. Donc sur le plan juridique, il est important en ces jours d'organiser des élections et ce calendrier ne vient que satisfaire ce que le législateur a prévu. Sur le plan politique, oui, il y a aussi un impérieux, pour ne pas dire une imposition de la part de nos gouvernements de le faire. Pourquoi? Parce que dans un pays post-conflit comme le nôtre, il n'est pas recommandé d'organiser très tard les élections, car cela freinerait la cohésion et le développement. Donc moi, je pense à mon avis que c'est nécessaire, voire urgent, d'organiser, et je soutiens ce calendrier qui mérite quand même certaines révisitations.
Voilà, donc on va... Allez-y, Omar.
Oui, je m'en vais maintenant à quelques recommandations. J'ai apprécié le calendrier, J'ai aussi à démontrer la nécessité d'organiser des élections maintenant, mais je pense qu'il faudra certaines choses pour que cela se passe dans les biens. Parce que le but d'une élection, c'est d'asseoir la démocratie dans un État et contribuer à la paix et à la cohésion sociale. Et moi, je pense qu'on pourra atteindre ces buts si certaines choses préalables sont faites. Premièrement, je demanderai au gouvernement congolais, qu'il a déjà fait en 2011, de doter des moyens sérieux à la CENI. C'est vrai, on peut toujours critiquer les animateurs de la CENI, mais s'ils ne sont pas dotés des moyens, rien ne sera fait. Je ne fais pas seulement allusion aux moyens financiers, je fais aussi allusion aux moyens logistiques. Vous savez, sur le plan logistique, nous avons des problèmes. Nous étions à MONUSCO l'année passée, en tout cas, tout le monde n'aurait pas accès. D'ailleurs, dans les fins fonds du pays, beaucoup n'ont pas pu voter parce qu'il n'y avait pas assez de kits électoraux. Ça, c'est des un. Des deux, aux acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition, on doit maintenant faire preuve de la maturité. Les élections n'est pas seulement une affaire de la CENI ou du gouvernement congolais, c'est une affaire de tout le monde. J'ai aimé l'organisation des journées portes ouvertes organisées par la CENI. C'est une possibilité d'accorder à tout le monde accès au débat. Il ne faut pas dire non à tout parce qu'on est dans l'opposition, il ne faut pas aussi dire oui à tout parce qu'on est dans la majorité. La maturité politique voudrait que lorsqu'on dit une chose, qu'on arrive à la dénoncer et qu'on puisse critiquer avec les autres. Je voudrais inviter tout acteur politique, surtout les candidats, chaque fois qu'il y a une porte ouverte de venir, dire en face aux animateurs de la CENI, voilà ce qui ne va pas.
Et Omar, juste une préoccupation. Comment jugez-vous en fait la réaction aussitôt publiée, le calendrier? Il y a une partie de personnel politique qui réagit, en tout cas en s'opposant, en criant déjà à une manœuvre dilatoire de pouvoir maintenir certaines personnes au pouvoir.
Moi, je pense que ce n'est pas une politique mature. La maturité voudrait que lorsqu'on critique une chose, qu'on voie celui qui l'organise et qu'on le critique. C'est limité à dire que c'est une façon dilatoire, ce n'est pas bien. Vous savez, Gire, dans la vie, il ne faut pas se limiter à alléguer des faits inutilement. Encore faut-il en démontrer. Qu'est-ce qui prouve que ce sont des manœuvres dilatoires? Si c'est vrai qu'ils ont des manœuvres dilatoires, autant mieux venir dans les portes ouvertes et les dire ouvertement. Mais quand on se limite, après la mise en place d'un calendrier, à commencer à dire qu'il y a manœuvre de la foi de la part d'une personne, moi je pense que ce n'est pas la maturité. Nous ne disons pas que la CENI a bien fait. Toute œuvre humaine a des imperfections. Mais la maturité voudrait que tout celui qui dénonce arrive sur le lieu, voie quand même ce qui est fait et émette des avis. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas critiquer ou insulter parce qu'on est dans l'opposition. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Et pour finir, je voudrais aussi demander à la CENI. Il est temps que le bureau de la CENI fasse preuve de démontrer. Le roi belge disait aux Congolais, chers Congolais, il est temps que vous montrez à tout le monde qu'on n'a pas eu tort de vous accorder l'indépendance. Moi, je pense que M. Maluma l'a fait beau jeu de critiques, même de ses animateurs. Il est temps qu'il fasse preuve du sérieux et de l'ordre. Quand je parle de l'ordre, je fais allusion même au bureau de vote. Nous avons été avec vous dans les bureaux de vote, il y avait beaucoup de désordres. On peut être à la tête au bureau, mais on ne sait pas ce qui se passe à la base. Il faut qu'il y ait un contrôle chaque jour des opérations électorales. Des deux, je voudrais inciter tout le monde, ceux qui sont à la scène, à l'honnêteté. Vous savez, même la Bible recommande aux gens d'être honnêtes. On ne cessera jamais de le dire que être honnête serait aussi une des qualités pour servir.
Voilà, voilà. Omar, merci beaucoup. Vous nous avez rappelé cette maxime de Bonaparte qui parlait des élections comme un facteur de cohésion et de développement. Merci beaucoup. Vous avez félicité la promptitude avec laquelle la CENI s'est employée pour au fait publier ses calendriers après avoir mis en œuvre donc la feuille de route de la poursuite des processus électoraux. Et vous avez signifié dans votre intervention la nécessité de organiser les élections municipales par rapport d'ailleurs à cette loi sur la décentralisation qui a été déjà mise en œuvre et qui n'attend que, au fait, aujourd'hui, qu'elle soit effective. Merci beaucoup, Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous allons nous rendre à Vienne. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les amis avec qui on va s'échanger sur vos ondes.
Voilà, vous avez suivi Franck, Omar, qui est favorable par rapport à ce calendrier et qui, en fait, donne aussi quelques recommandations pour que, réellement, ces élections puissent être crédibles. Alors, vous avez la parole. Comment jugez-vous ces chronogrammes de la CENI et que faudrait-il faire pour le respect du calendrier?
Oui, de l'extérieur, je crois que tout citoyen congolais qui se respecte, tout citoyen congolais qui aime son pays, ne peut qu'être content de voir la CENI publier son calendrier électoral avec les différentes dates auxquelles ces échéances électorales auront lieu au niveau de la base. Notre souci, comme M. Omar venait de le dire, c'est de voir nos représentants politiques, nos acteurs politiques se mettre d'accord les uns avec les autres. Parce que quelquefois, ce qui pose le problème chez nous, ce n'est pas seulement l'organe qui doit organiser les élections, mais c'est aussi d'abord ce manque de bonne volonté dont je parlais lundi, ce manque de bonne volonté de la part des acteurs qui ne cessent de poser problème. Mais pour aujourd'hui, mon intervention ne se limite pas seulement à ce que j'avais déjà dit lundi. Moi, j'ai quelques difficultés et j'essaie un peu de thématiser en question. Donc, la première question, c'est liée au recensement. À lire ce que vous avez publié ou à lire les articles sur ce calendrier, les recensements auront lieu seulement avant les élections présidentielles. Mais est-ce que n'aurait-il pas été plus prudent de procéder à ce recensement des citoyens congolais avant toutes les échéances électorales? Parce que, selon moi, quand j'ai su encore ce débat depuis 2006, 2011 jusqu'à présent, un des problèmes épineux, c'est qu'on a toujours, on ne sait pas combien de citoyens vont participer aux élections. Et quand on ne sait pas combien de citoyens vont participer aux élections, là, on retombe sur le débat du fichier électoral. Et c'est toujours parmi les pommes de discorde. Pourquoi ne pouvait-il pas être possible qu'on commence d'abord par recenser les Congolais? Et je crois que l'obligation de recenser les citoyens, ce n'est pas seulement l'obligation de la CENI comme organe qui organise les élections. Ça doit être parmi les obligations régaliennes du ministère de l'Intérieur. Et je crois que là, à ce niveau-là, le ministère de l'Intérieur devait travailler en collaboration avec beaucoup d'autres structures, même au niveau local. Personnellement, je ne cesse de me poser la question, pourquoi jusqu'à présent, depuis 2006,
il y a jamais
nous sommes à 2014, on va organiser les élections encore présidentielles en 2016, donc de 2006 jusqu'à 2016, c'est quand même 10 ans. Pourquoi n'est-il pas possible de penser aussi à procéder à ces recensements afin de savoir combien des électeurs, combien de citoyens congolais ont atteint tel âge, combien de citoyens congolais.
Voilà, merci beaucoup.
Au fil du temps, vous me donnerez la réponse.
Merci.
La deuxième question,
oui, rapidement, Franck.
Est liée par rapport aux... Pardon?
Rapidement, parce qu'il y a, Mathieu qui attend et puis Maître Adrien qui est aussi en ligne.
La deuxième question est liée à certains articles même de notre Constitution ayant trait à la décentralisation. Les élections locales auront lieu au niveau de la base, au niveau des secteurs, au niveau des chefferies. Mais ces élections vont obéir à quels articles de la Constitution? Parce qu'il y a des articles de l'actuelle Constitution sur la décentralisation qui n'ont jamais été correctement respectés. Alors maintenant, on va se référer à quel article de la Constitution? De l'actuelle Constitution approuvée par voie référendaire ou à quel article? Parce que jusqu'ici, je crois qu'il y a des articles ayant trait à la décentralisation qui ne sont pas encore correctement appliqués. Et comment on
voilà,
va
merci beaucoup.
À les appliquer?
Merci beaucoup,
à partir
Franck.
Des élections ou bien partir de 11 à 26 provinces.
Merci beaucoup, Franck. Je crois que notre invité va revenir sur ça par rapport aux activités de la CENI qui seront organisées durant ces 18 mois. Mais à notre information, donc, nous avions appris qu'il y aura également la loi électorale qui sera mise en examen au Parlement, la loi électorale portant répartition des sièges et aussi donc la loi à l'annexe. Voilà. Merci beaucoup Franck, 081 890 63 15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Mathieu, gardez la ligne. Maître Adrien, vous restez avec nous. On va vous accorder la parole de moi à l'autre. Monsieur l'abbé Malou Malou, vous êtes notre invité dans cette émission Parole aux auditeurs. Tous les plaisirs est pour nous de vous recevoir dans ce studio, pour la première fois en tout cas, depuis le début de l'année, lorsque vous avez lancé le calendrier électoral. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de supputations et aussi beaucoup d'appréhension. Nous avons tenu à élucider quelques zones d'ombre. Aujourd'hui, c'est vrai, le calendrier est sorti. Est-ce qu'on peut se faire une idée sur les grandes lignes de ces calendriers?
Je vous remercie, je salue les auditeurs. Je pense que d'abord, les grandes lignes, ce sont les dates du scrutin. Parce que le reste, c'est la phase préparatoire et la phase post-électorale. En ce qui concerne les grandes dates, on peut retenir dans ce calendrier des élections urbaines, municipales et locales trois grandes dates. Le 14 juin 2015, élection des conseillers des communes, des conseillers de chefferie et des conseillers de secteur. Le 29 août 2015, élection par les conseillers des communes et de secteur, des bourgoumestres, conseillers urbains et des chefs de secteur selon les cas. Et puis le 15 octobre 2015, élection par les conseillers urbains des maires et maires adjoints. Voilà donc des villes. Voilà un peu les trois grandes dates. Le reste maintenant, ce sont les opérations qui encadrent cela avec une très grande opération de fiabilisation du fichier électoral, de cartographie opérationnelle, parce qu'on doit avoir la frontière exacte de chaque entité. Je rappelle que pour ces élections directes, municipales et locales, la circonscription en milieu rural, c'est le groupement, et en milieu urbain, c'est la commune. Donc on doit avoir les frontières nettes des communes et des groupements et à l'intérieur, voir comment cela doit se passer. Il y a aussi parce que le fichier électoral pose toujours beaucoup de problèmes aussi, il y a beaucoup d'appréhension. La CENI avait déjà fait un audit interne, elle procède aux corrections, elle a annoncé aussi qu'il y aura dans la phase préparatoire un audit externe du fichier électoral.
Alors, en début de l'année, lorsque vous avez présenté la feuille de route de la CENI en rapport avec ce processus, vous avez au fait proposé deux hypothèses quant au suffrage, au mode de suffrage. Alors, aujourd'hui, vous avez opté pour le suffrage direct. Est-ce qu'on peut avoir des motivations?
Non. C'est que peut-être vous n'avez pas bien vu les nuances de la feuille de route. Les deux propositions de feuille de route ne portaient pas sur les élections urbaines, municipales et locales. Dans toutes les deux hypothèses, eh bien, le scénario reste le même. On commence par l'élection des conseils des communes, des chefferies et des secteurs, puis il y a une série d'élections indirectes. Et dans les deux projets de feuille de route, il était déjà clairement communiqué à tout le monde que la CENI avait décidé de commencer par les élections urbaines, municipales et locales. Et la question maintenant des hypothèses, c'était de savoir, vu l'échéance de 2016, comment alors articuler ces élections urbaines, municipales, locales par lesquelles nous allons commencer avec le reste des élections que sont les élections provinciales et sénatoriales, étant donné la pression de l'élection présidentielle et des élections législatives nationales. Alors c'est à ce moment-là qu'il y avait deux hypothèses. La première, c'est que toutes les élections provinciales et sénatoriales peuvent avoir lieu en 2015 au cas où l'élection des députés provinciaux est au suffrage indirect, et en élargissant le corps électoral des gouverneurs et des sénateurs. Mais si on garde ce qu'il y a actuellement dans la loi, c'est-à-dire un scrutin direct pour les députés provinciaux, alors à ce moment-là, la deuxième hypothèse, c'était de les organiser ensemble avec l'élection présidentielle et les élections législatives nationales. Et nous avions donné la raison, c'est que les circonscriptions des élections provinciales et des élections législatives nationales, ce sont les mêmes. C'est le territoire et la ville. Donc il est plus facile de les organiser ensemble que de prétendre les organiser avec les élections municipales et locales, où là, les circonscriptions sont énormes, en tout cas très nombreuses. Vous savez, je vous donne un peu. À l'état actuel, il y aurait 266 circonscription électorale pour les élections législatives nationales et provinciales, si c'est direct, alors que pour les locales, Eh bien, c'est plus, environ 7 000 ou plus.
Alors, d'aucuns aimeraient avoir de précisions par rapport au scrutin de 2015, parce que c'est vrai, le municipal, le communal et local, au fait, c'est en trois temps. Vous avez donné trois dates. Alors, pourquoi ne pas organiser un scrutin unique? Et surtout, nous avons des problèmes de l'éloignement des bureaux des votes. Les gens vont devoir faire des longs trajets par trois fois. Vous ne pensez pas que c'est déjà là un problème?
Non, l'électeur va venir une seule fois. L'électeur, lui, il est concerné par l'élection du 14 juin 2015. Lui va élire les conseillers de communes, les conseillers de chefferie et les conseillers de secteur. C'est maintenant, les deux autres dates concernent les élections indirectes. Ça ne fatigue plus l'électeur. Et à ce moment-là, c'est le conseiller de communes qui a la plus grande tâche, surtout s'il est un milieu urbain. Parce que s'il est un milieu urbain, il doit élire le même jour maintenant les conseillers urbains et les bourgmestres. Et alors, le chef de chefferie, lui, il est là, c'est une dévolution héréditaire. Donc lui, il n'est pas élu par le conseil de chefferie. Par contre, le secteur est concerné par le deuxième palier d'élection indirecte, l'élection indirecte au premier degré, comme on l'appelle, c'est-à-dire c'est celui qui vient après le direct. Alors, à ce moment-là, c'est le conseil de secteur qui va élire le chef de secteur. Et c'est normal, parce que c'est ça la municipalité. Et pour terminer, c'est maintenant le conseiller urbain élu lui-même au suffrage indirect qui va élire le maire de...
Toujours dans le suffrage indirect.
Oui. Voilà. Et je voudrais indiquer que parfois tout le monde dit est-ce qu'on peut pas élire tout le monde au suffrage direct. Eh bien, je vous donne une idée du budget. Chaque scrutin direct coûte environ 200 millions de dollars. Donc on ne peut pas quand même le multiplier comme du pain. Mais aussi, l'article 5 de la Constitution dit que le suffrage universel peut être direct ou indirect. Donc il n'y a pas de problème de suffrage.
Alors il est dit que les années passées, en 2011 notamment, le gouvernement avait financé pratiquement à 100% les élections. Alors pourquoi il ne les ferait pas aujourd'hui pour que nous restions dans le suffrage direct? Parce qu'il en est capable, le gouvernement.
Non.
S'il l'a fait en 2011.
Le gouvernement est capable d'organiser le scrutin direct. Mais pas tous les scrutins, pas transformer toutes les élections en scrutin direct, parce que je vous donne l'ordre de grandeur. Vous voulez transformer toutes les élections en scrutin direct, ben il faut préparer au moins 1,5 milliard de dollars.
Et déjà, nous avons un budget national.
Je ne sais pas si le gouvernement en est capable, mais il n'y a pas aussi d'autres priorités.
Alors, il faut recourir aux partenaires.
Non, mais bon, on ne peut pas aussi faire
déjà les États-Unis. Les États-Unis ont pensé quand même à faire déjà un geste lors du passage de John Kerry.
Mais nous saluons ce geste, mais ce geste ne va pas se substituer à l'organisation des élections. Vous savez, un pays ne peut pas planifier la mendicité. Vous devez faire vos lois en fonction de vos moyens. Maintenant, l'assistance internationale, qu'elle soit technique ou financière, est possible, mais elle ne peut pas venir remplacer l'organisation de
la souveraineté de l'État
par les Congolais, parce que c'est une affaire de souveraineté de l'État.
081 890 6315.
Vivez deux jours d'exception au rythme du jazz à Kinshasa, les 31 mai et 1er juin, au Théâtre de Verdure, avec la 8e édition du festival Jazzif. À cette occasion, nous célébrerons tous ensemble les 20 ans de carrière de Lokua Kanza et fêterons le jazz avec aussi Richard Bonnard, Jean Gobal, Sarah Tabarès et bien d'autres. Des concerts à retrouver prochainement sur Radio Capi. Pour toute réservation de billets à ce festival, appelez le 081 059 98 88 ou allez sur www.jazzif.com.
parole aux auditeurs.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission. Mathieu, vous êtes à Kananga. Maître Adrien, dans la même ville que Mathieu. Et Alfred, vous êtes à Lubumbashi. Mathieu, bonjour. Prophète Mathieu, bonjour.
Bonjour, le serviteur de Dieu Malou au plateau.
Merci.
Prophète Mathieu à Kananga.
Voilà, vous avez la parole. Votre point de vue, comment vous jugez, comment jugez-vous ces chronogrammes de la CENI et que faudrait-il faire pour le respect du calendrier?
D'abord, je ne m'attaque, mais je ne peux pas m'attaquer au calendrier, puisque je connais que les gens qui se trouvent présentement aux institutions, notamment l'heure de la ville, sont déjà hors délai. C'est un vide juridique que je considère sur le plan juridique, sur le plan des droits. Alors, moi, je m'attaque surtout au communiqué des tic-tac qui se passe maintenant. Je crois que l'état où vont les choses nous montre plus clairement que nous allons vivre une crise très aiguë de son histoire par les politiciens congolais, avec cette politique de la terre brûlée et de la terre, et de la terreur. Ce qui me fait regretter est d'attendre nos politiciens avec toujours le peuple. Or, le peuple sont plus à notre...
Voilà, vous sortez intercoupé. Mathieu, si vous pouvez prendre une bonne position, comme ça on va bien. Oui, voilà, allez-y.
Les problèmes des élections d'abord. Avant même la sortie de ces calendriers que je considère normal, le président de la CENI devrait faire tout en s'entendre avec toutes les couches de la population, y compris même les soi-disant politiciens de toute l'opposition là. Leur proposer les calendriers et de leur défonder en tant que croyants. La Bible déclare, des personnes ne peuvent jamais marcher dans un chemin s'ils ne sont pas entendus.
Oui, Mathieu, excusez-moi de vous couper tout de suite, parce que vous avez participé à cette émission qu'on avait présentée lundi, autour des journées ouvertes à la CENI. Je crois que c'était l'occasion idéale pour que chacun de nous, en tout cas nous, population, les personnels politiques, pour qu'on puisse se rendre compte réellement du travail qui est fait par la CENI. C'est à cette occasion-là que toutes les questions ont été balayées.
Mais moi, je crois que, pour terminer, il faudrait que monsieur le président de la CENI organise une table ronde, moi je l'insiste, pour éviter les distractions.
Pour éviter une crise.
Et d'autres formes de montage des gens, en plus les politiciens congolais n'aiment pas les peuples congolais.
Voilà, merci beaucoup Mathieu, vous en appelez l'implication des politiciens, parce qu'il y a eu certes des journées ouvertes au sein de la CENI pour réexpliquer, et maintenant que le calendrier est promulgué, vous en appelez à la cohésion nationale pour que tous nous voyons l'avenir. Merci beaucoup Mathieu d'avoir appelé des Kananga. Nous restons dans la même ville au Kasaï occidental. Maître Adrien, vous êtes avec nous, bonne arrivée sur les ondes des Radio Okapi.
Merci beaucoup, JR. Bonjour à monsieur le président de la CENI.
Vous avez la parole. Votre point de vue.
Oui, JR, sur papier, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Pour ça, c'est une institution indépendante. Même si sur le terrain, on ne sent pas cette indépendance. Qu'à cela ne tienne, la CENI, c'est que l'organisation des élections, c'est son apanage, mais néanmoins, la CENI doit aussi savoir qu'elle n'organise pas les élections pour elle-même. Ces élections-là concernent la population congolaise. Pour répondre directement à votre question, je pense que le calendrier de la CENI n'est pas réaliste. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons déjà les réactions des partes et d'autres, il se pose un problème, je me dis, ce calendrier n'est pas consensuel. Or, c'était la moindre des choses que la CENI devrait commencer par écouter les uns et les autres.
Maître Adrien, parce que là, vous évoquez la position des uns et des autres. Mais vous avez quelle position? Parce que c'est un jugement qui doit être fait aussi par la population que vous représentez aujourd'hui.
Tout à fait, JR. C'est ça même mon impression. C'est cela que je vous dis que ce calendrier n'est pas réaliste. Parce que pour que ce calendrier puisse produire des résultats escomptés, ça demande l'appui de tout le monde. Or, il y a déjà une scission au sein de la population, au sein même de la classe politique congolaise. Parce que vous devez savoir, JR, il y a un processus qui a été déjà établi en 2011. Mmh. Je me demande pourquoi la CENI n'a pas voulu d'abord terminer d'abord ce processus-là, en commençant par organiser d'abord les élections provinciales. Au jour d'aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Il y a des assemblées provinciales qui fonctionnent largement hors délai. Or, on devait d'abord régler ce petit problème-là pour nous poser maintenant les problèmes des élections municipales, ainsi de suite. Là, c'est de un. De deux, hier, nous, personnellement, j'ai l'impression, c'est comme si la CENI est en train de jouer, donc de faire le jeu de l'une des parties en course. Parce que je ne peux pas comprendre, il y a eu de belles propositions
données
par les députés nationaux, par les opposants et par la majorité. Mais j'ai l'impression que la CENI a opté uniquement les propositions alléguées par la majorité en rejetant ce que l'opposition donnait comme proposition.
Maître Adria, je crois que nous avons tous suivi l'actualité. C'est vrai, vers le 3 mars, si ma mémoire est très bonne, les évêques catholiques avaient réagi par rapport à la feuille des routes. Aujourd'hui, nous sommes, en tout cas par rapport au mode de suffrage, c'est comme si la CENI a rejoué pratiquement, si pas à 100%, mais au moins à 70% les propositions des évêques catholiques.
Le problème qui se pose, c'est qui angoisse un peu mon cœur, est celui de savoir est-ce qu'il est vraiment opportun au jour d'aujourd'hui, vu l'urgence que nous avons dans notre pays. Est-ce qu'il est opportun de commencer par organiser les élections municipales? Je me dis non. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il y a déjà un problème qui se pose aussi, c'est le problème du recensement. Mm-hmm. Le problème, selon ce qu'on,
voilà,
ce qu'on a appris, c'est en 2015 que ce processus pourra commencer. Mm-hmm. Mais je me demande pourquoi l'histoire ne nous renseigne-t-elle pas dans ce pays, parce que M. Rabé Malou, qui est au studio que je salue, s'est aidé que c'est avec cette même allure que lui avait entamé le processus de 2006. Mais où est-ce qu'on avait chuté?
Merci beaucoup, Maître Adrien. Voilà, parce qu'il s'agit là de préoccupations directes. Hein. Alors, Monsieur l'Abbé, comment vous réagissez? Parce que le problème des recensements a été posé aussi par un auditeur avant que vous accédiez à ce studio.
Bon, je vous remercie. Merci pour toutes les questions et les préoccupations exprimées. Je voudrais d'abord corriger, parce que j'attends les acteurs, dire que le processus de 2011 n'avait planifié que les élections provinciales et sénatoriales. Non, allons lire la loi. La loi modifiant la loi de 2006 annonce les élections présidentielles, législatives nationales, provinciales, urbaines, municipales, et local. Donc les locales sont au même titre que les élections provinciales et sénatoriales, un arriéré électoral de 2011. Ça, c'est d'abord la précision qu'il faut donner de par la loi. Parce que je pense que, à force de raconter des histoires sans lire la loi, on risque de dévier le débat. En deuxième lieu, je pense qu'il y a une concertation. La CENI a organisé presque 20 réunions avec toutes les parties prenantes. Chaque réunion a duré 5 heures de temps. Donc on ne peut pas prétendre que la CENI n'a pas consulté les parties prenantes. Mais attention, consulter ne veut pas dire qu'on doit tout retenir. Parce que le calendrier, c'est la somme de toutes les contraintes de l'organisation des élections. Donc la CENI, quand elle délibère en tenant compte des propositions des uns et des autres. Pour le moment, toutes les propositions qui ont été faites ne portent pas forcément sur les élections urbaines, municipales, locales. Les gens se prononçaient sur élections indirectes ou directes par les députés provinciaux. Vous avez vu que la CENI n'a pas annoncé les élections provinciales et sénatoriales parce qu'elle estime que le législateur devrait d'abord se prononcer par rapport à cela avant de publier le calendrier des élections provinciales et sénatoriales. Donc la CENI a respecté ce que les uns les autres ont dit, et en tant que législateur, se prononce sur les élections provinciales et sénatoriales avant de publier le calendrier. Et tout le monde a insisté aussi sur le fait que le recensement administratif devrait avoir lieu. Je voudrais d'abord indiquer que les élections que nous faisons d'abord en premier, urbaines, municipales et locales, sera le cas aussi pour les élections provinciales et sénatoriales. Ce sont des arriérés électoraux qui fonctionnent sur base de la loi portant identification et enrôlement des électeurs qui avait décidé d'un enregistrement périodique des électeurs. Donc, selon cette loi, les électeurs sont enregistrés pour l'ensemble du cycle électoral. Et c'est à la veille du nouveau cycle électoral qu'on réenregistre le nouveau électeur. Donc, c'est comme ça que, sur base du fichier électoral actuel, mais corrigé, fiabilisé, on connaît le corps électoral pour les élections urbaines, municipales et locales. Sans aucun problème. Et là sera le cas si on a décidé. Alors, pourquoi avoir commencé par les élections urbaines, municipales et locales? Parce qu'il est possible d'articuler en une fois les élections provinciales, l'élection présidentielle et les élections législatives nationales. Est-ce que nous ne voulons pas stabiliser le pays une fois pour toutes?
Est-ce qu'il n'y aura pas une adéquation entre, par rapport à la loi sur la décentralisation aujourd'hui, et les sièges qui pourraient peut-être la répartition des sièges, en fait?
Non, il n'y a pas d'adéquation. Vous savez que maintenant, nous sommes en train de mettre en application deux lois essentielles qui étaient déjà annoncées par la Constitution elle-même. Deux lois organiques importantes. La loi qui fixe les entités décentralisées, qui a été publiée en 2008, et la loi qui fixe les entités déconcentrées, qui a été publiée en 2010. Et le Premier ministre, en 2013, a sorti le décret d'application de la loi de 2008, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et le ministre de l'Intérieur l'a déjà annoncé. Eh bien, il est en train d'achever les arrêtés d'application
donc, si je comprends bien, les
de la loi qui fixe les groupements, les territoires. Et il lui reste deux conférences à Kananga et à Bujimaï au mois de juin, car là-bas, il y avait un phénomène de groupement de fait. Dès qu'il règle ça, eh bien, les décrets sortent. Alors, lorsque tous ces décrets et les arrêtés sortent, qui peut encore les arrêter? Ce sont des décrets d'application. À ce moment-là... Donc
vous avez anticipé.
Non, on n'a pas anticipé. C'est notre rôle. C'est le rôle suivant. Dès que le Premier ministre crée 98 villes, si on prend la ville de Kinshasa, dont 77 nouvelles villes. Dès qu'on passe de 97 communes urbaines avant à 601 communes, est-ce qu'on peut se dire qu'on va attendre quoi? On doit mettre en application ces décrets, parce que ce sont des décrets d'application. Donc après ces mesures-là d'application, qui entrent en vigueur en date de leur signature, la CENI ne peut pas encore attendre. Elle va attendre quoi? Elle va attendre quoi pour organiser cela? Qui plus est, tout le monde aime bien qu'il y ait le recensement administratif. Pouvez-vous faire l'état civil sans stabiliser les entités locales? Vous allez le faire comment? Puisque l'état civil se passe dans la commune, dans le groupement. Alors, comment vous allez faire l'état civil et vous dites que les entités locales ne nous intéressent pas? Non, c'est la base même de la refondation de l'État. Alors, pour terminer, il y a déjà un organisme qui a été créé en 2011,
pour
Office national d'identification de la population, qui va prendre en charge sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Il faut distinguer le recensement administratif et le recensement scientifique ou général, selon les termes. Et l'ONIP, maintenant, a un projet. Ce projet a nécessité un préfinancement de 498 millions de dollars. Donc quand les gens disent, mais il y a 10 ans, on ne l'a pas fait, même aujourd'hui, le gouvernement est incapable de le faire par lui-même, il est obligé de demander un préfinancement d'Exim Bank Chine, selon l'appel d'offres que BESECO a conduit en 2011 et qui a abouti à cette passation de marché au choix de la société chinoise Huawei pour accompagner l'ONIP sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.
Si vous permettez,
c'est un processus en cours et je crois que c'est important de le savoir.
Monsieur Labbé, si vous le permettez, on va repasser à nouveau au standard parce que la parole est accordée aux auditeurs. Alfred, vous êtes à Lubumbashi, Christian à Kananga, Totokani à Kinshasa. Alfred, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà.
L'invité qui est au studio.
Oui, Alfred, vous avez suivi vos prédécesseurs. Les uns ont évoqué le problème de recensement, d'autres ont salué, la publication de ces calendriers. Mais la plus grande question que nous avons posée aujourd'hui, comment vous jugez ces chronogrammes de la CENI et que faudrait-il faire pour le respect du calendrier?
Ces chronogrammes, d'après moi, ne sont en violation de la Constitution. La Constitution avait prévu en 2006, parce que M. Malomaro qui est au studio, c'est lui qui était le président de la CEI en 2006. Il n'a pas organisé les élections locales, municipales et urbaines. Il a organisé les élections présidentielles, législatives et provinciales. En 2011, M. Ngoïmou Lunda est venu, il a organisé les élections présidentielles, législatives. Il a oublié les autres. Et que moi, je pose d'abord la question à M. Malomalo. Est-ce qu'en 2016, la Constitution prévoit qu'il doit avoir les élections présidentielles législatives? Mais il faut savoir que le président de la République est une institution et la première institution. S'il y a crise autour de cette institution, les restes des institutions ne vont pas bien marcher. Parce qu'avec ce chronogramme-là, ce qu'il est en train de détailler là, c'est bien, mais s'il faisait ça en 2016, je vous assure qu'il n'y aura pas des élections présidentielles. Il y aura.
Voilà, merci. Merci beaucoup.
Vous avez vu, excusez-moi, en 2011, vous avez vu comment M. Tshisekedi, je le cite, il disait que si au mois de décembre,
Alfred, on a compris votre préoccupation.
Il n'y a pas d'élections tout ça.
Voilà, je crois qu'Alfred, on a compris votre préoccupation, c'est vrai. Vous craignez qu'en 2016, qu'il n'y ait pas des élections, qu'il n'y ait pas la présidentielle, hein, parce que si jamais le calendrier n'est pas respecté, ça c'est pratiquement un problème aussi. On reviendra avec notre invité tout à l'heure. Alors, Christian, vous êtes à Kananga, bonjour.
Moi, je suis à Pandroma, dans la province orientale.
Voilà, vous êtes à Pandroma, dans la province orientale. Vous avez la parole, Christian.
Oui, merci beaucoup pour...
Voilà, je crois que Christian, on va quand même évoluer. On pourrait éviter de revenir sur ce que les autres ont déjà dit. Question de permettre à ce que cette ville d'Antonou puisse quand même balayer tous les auditeurs qui sont à travers le pays et ceux qui sont à l'extérieur qui cherchent à intervenir dans cette émission. Alors Christian, vous avez la parole, vous avez suivi vos prédécesseurs, vous avez retenu quand même ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que vous ajoutez dans votre réflexion?
En tout cas, je n'ajoute rien, mais moi j'ai seulement une question par rapport à ce calendrier qu'on vient de publier. Je pose une question à M. Labbé. S'agissant de certains opérateurs de saisie et certains agents de la CENI qui ont travaillé pour l'année 2011, qui n'étaient pas payés jusqu'à maintenant. Est-ce que son organisation...
Voilà, Christian, je crois que ça fait l'objet de notre débat. Nous ne sommes pas encore aux élections, mais je crois que bon, on va réserver quand même une réponse par rapport à ça. Aujourd'hui, nous parlons plutôt du calendrier qui a été publié, qui déjà a suscité beaucoup d'appréhension, des réactions des uns et des autres. Totokani, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Totokani.
Bonjour, Pierre.
Vous avez la parole, Totokani.
Oui, merci pour la parole. Je félicite votre invité qui a donné beaucoup, beaucoup de détails sur le plan technique à propos du sujet du jour. Eh bien, la problématique posée est d'une importance telle que nous devons élever le débat, le dépassionner de manière à contribuer tant soit peu à la construction de cet ambitieux projet que sont les élections dans notre pays, ce qui est un gage important pour l'unité et la cohésion nationale. En regardant de plus près, je pense que le calendrier proposé par la CENI est vraiment réaliste, hein, dans la mesure où il a pour motivation le profonde, l'apuration des arriérés de 2006. C'est très important sur ce point de vue-là. En plus, les dates sont agencées de manière à ce que toutes les étapes ne connaissent pas de télescopage. Alors aujourd'hui, il est temps que nous comprenions que la CENI, à l'heure actuelle, a acquis une maturité, car elle a travaillé réellement dans un esprit de concorde en associant le peuple congolais à la prise de décision à travers le forum des partis politiques et associations. À présent, il revient aux partis politiques de saisir la balle au bon afin de préparer leurs électeurs, car l'heure n'est plus à la distraction, s'il vous plaît. Quant aux différents contributeurs, il est impérieux que chacun fasse sa tâche en temps et en heure afin qu'il n'y ait pas du sable dans l'engrenage, comme on dit. Alors, pour la frange de nos compatriotes qui pensent au départ de M. l'abbé Malumalu, je respecte leur opinion tout en constatant que le processus est tellement avancé qu'il serait anachronique d'y revenir.
Oui, Toto Kani.
Sinon,
oui,
c'est eux qui cherchent à faire au pouvoir et pas la CENI. C'est
oui.
Ça, à mon avis. Merci.
Oui, oui, Toto Kani, restez un peu en ligne. Si on peut peut-être poser juste une question de relance. C'est vrai, vous avez, en évoquant cette histoire de pétition qui a été initiée pour le départ de l'abbé Malumalu de la CENI. Alors, les uns pensent que le calendrier n'est pas réaliste. C'est en fait une manœuvre dilatoire pour pouvoir maintenir certaines personnes au pouvoir. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non, je ne partage aucunement cet avis-là. Vous savez, nous avons des arriérés. Depuis 2006, on n'a jamais payé cela. À quoi ça servirait que de sauter ces étapes pour aller directement à la provinciale ou à la présidentielle pendant que nous avons des arriérés? Nous risquons de laisser ces arriérés qui pourraient encore nous rattraper le mandat suivant. Moi, je me dis que la CENI, à mon avis, n'a aucun intérêt, n'a aucune intention de vouloir pérenniser qui que ce soit au pouvoir, dès lors que les partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité, ont pris part, y compris les associations de la société civile, ont pris part aux étapes importantes de prise de décision. Ils ont suggéré même certaines matières qui ont fait à ce que puissent pousser la CENI à prendre ce calendrier.
Donc, merci beaucoup. Toto Kani, merci. Et merci d'avoir contribué dans cette émission. On va prendre Rossi et Étienne avant de revenir à notre invité. Rossi, vous êtes à Kikwit dans le Bandundu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Alors, comment vous jugez ce chronogramme de la CENI et que faudrait-il faire pour le respect du calendrier?
Bon, je tiens tout d'abord à encourager et féliciter la CENI pour nous avoir sorti un calendrier pour les élections. Mais au même moment, je tiens aussi à relever un problème très sérieux, à mon avis. J'ai l'impression que nos politiciens, que ce soit de la majorité de l'opposition, et même les gens de la société civile, y compris la CENI, et quelque part, il n'y a pas de patriote, excusez-moi de dire ça, mais j'ai l'impression que nos politiciens et des gens sur qui nous comptons utilisent beaucoup plus leurs intérêts propres par rapport aux intérêts de la population. C'est bien de publier le calendrier, mais pourquoi les gens de l'opposition doivent s'abstenir à ne pas vouloir ce calendrier, à ne pas vouloir le président de la CENI, dès lors qu'ils ont leurs représentants qui ont travaillé également le calendrier? Mais pourquoi les gens de la majorité doivent s'abstenir seulement au calendrier, alors que certains préalables de la CENI, de l'opposition, sont aussi d'une importance capitale? C'est là où je me dis que les gens ne se soucient pas de l'intérêt du Congolais, ont besoin de leurs intérêts propres. Mais quant au calendrier, j'estime que c'est une bonne chose. Les délais est quand même raisonnables. Tout le monde doit mettre un peu d'eau dans son vin pour pouvoir comprendre que l'intérêt du peuple congolais, oui, L'intérêt de notre pays est là. Si on n'a pas de patriotisme, ces calendriers ne seront pas respectés.
Voilà, merci.
Et les élections ne seront pas crédibles.
Voilà, il faut vraiment la cohésion nationale pour permettre à ce que la CENI ait le moyen de sa politique et arriver à mener à bon port ces processus. Merci beaucoup, Rossi. On va prendre le dernier auditeur de cette série. Étienne, vous êtes à Guémena. Bonjour, Étienne.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour à Docapi. Bonjour à tous les auditeurs et à l'invité.
Vous avez la parole, Étienne.
Ok, merci à monsieur le journaliste. Par rapport au chronogramme proposé publié par la CENI, je ne peux que féliciter la CENI pour elle s'est rattrapée quand même. Et s'il faut préciser, monsieur le journaliste, qu'on doit informer à la population que les élections municipales et locales qu'on veut organiser, il faut bien dire que ce sont les arriérés des élections de 2006, bien sûr. Ces élections de 2006 devraient être d'abord organisées par lui-même, l'abbé Apollinaire Malumalu, Malheureusement, il n'a pas pu le faire, mais en 2011, ils n'ont pas aussi réussi à passer aux élections tant locales que municipales. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a proposé ce calendrier, le calendrier publié pour qu'on puisse organiser les élections tant municipales, provinciales qu'autres. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Quand on observe attentivement
le calendrier,
on voit que les choses sont chronométrées à tel assain que moindre erreur, on assisterait à de désordres. Parce que je dis désordre dans le sens que le chronogramme, le calendrier est vraiment confiné et j'insiste en demandant à la CENI d'être vraiment prudente et d'être honnête afin que les élections puissent, locales et municipales puissent être organisées tout en respectant à la lettre, au pied de la lettre, à l'échelle, le calendrier proposé. Sinon, ce serait
de
connaître un grand retard. Mais la question que je voudrais poser à M. l'invité, c'est que ces arriérés des élections de 2006 jusqu'à aujourd'hui, on veut maintenant passer à ces élections. Est-ce que les élus, ceux qui seront élus au niveau de ces terres et consorts, appartiendraient à quel mandat? Parce qu'on sait que le mandat de 2006 a pris fin en 2011, le mandat de 2011 prendra fin bientôt en 2016. Maintenant qu'on veut organiser ces arriérés des élections, est-ce que ceux qui seront élus appartiendraient à quel mandat, monsieur le journaliste?
Merci beaucoup, Étienne, d'avoir appelé 081-890-6315.
Ils sacrifient leur vie au nom de la paix depuis 70 ans. Ils n'ont qu'un seul devoir, servir les peuples et les nations au conflit. Ils sont intervenus jusqu'ici dans 70 missions à travers le monde. Ils n'ont qu'un objectif, installer le dialogue et repousser les frontières de la violence. Rendons hommage à leur engagement. Le 29 mai, Journée internationale des casques bleus. Parole aux auditeurs.
Merci Michel de nous avoir rejoints. Vous êtes à Matadi. On va vous accorder la parole dans quelques instants. Le temps de revenir dans ce studio avec notre invité, Monsieur l'abbé Malumalu. Vous avez suivi cette longue, cette deuxième série très longue des auditeurs. C'est vrai, tout le monde est d'accord avec la publication du calendrier, mais il y a quelques préalables, il y a aussi quelques préoccupations et quelques appréhensions. Alors comment vous balayez tout ça et pour au fait orienter les préoccupations des uns et des autres?
Non, d'abord on ne fait pas balayer. Ce sont des préoccupations importantes qu'il faut partager. Je pense d'abord qu'il faut une précision. La CEI, à l'époque, n'a pas violé la Constitution. Parce que la Constitution avait annoncé deux lois organiques préalables à la tenue des élections urbaines, municipales et locales. Et si vous connaissez le mandat que la CEI avait et qui s'est terminé à la fin des élections, eh bien, la loi qui fixe les entités décentralisées n'est sortie qu'en 2008. La loi qui fixe les entités déconcentrées n'est sortie qu'en 2010. Le décret du Premier ministre en 2013. Et les arrêtés du ministre intérieur en 2014. Vont sortir en 2014. Donc ça veut dire que là, je pense que c'est le gouvernement qui n'avait pas encore rempli les préalables de la tenue des élections urbaines, municipale et locale. Maintenant que les conditions sont réunies, la CENI ne peut plus se permettre de dire on ne va pas aux élections urbaines et municipales locales, tant attendu. Et je voudrais aussi, même Radio Okapi, vous rappeler que lorsque je venais ici, les mêmes, plusieurs auditeurs en tout cas, disaient il faut commencer par les élections urbaines, municipales et locales, et peut-être les gens l'ont oublié. Mais je voudrais préciser que si pendant la transition, on ne pouvait pas commencer par les locales, c'est parce que c'est l'élection présidentielle et la mise en place de l'Assemblée nationale issue des urnes qui marquait la fin de la transition, laquelle transition était limitée dans le temps. Donc si on avait commencé par les élections urbaines et municipales et locales, on se serait retrouvé à la fin de la transition sans avoir organisé les élections qui mettent fin à la transition. On serait entré dans une crise et on devrait retourner aux négociations politiques inter-congolaises. Personne ne pouvait prendre une telle responsabilité. Je voudrais aussi indiquer bien que Les élections provinciales et sénatoriales, c'est vrai, il y a un dysfonctionnement institutionnel. Les députés provinciaux ne sont pas contenus. Leur mandat projet, gouverneur de province, et puis évidemment les sénateurs. Mais pour les élections locales, c'est plus grave. Parce que pour les élections dont on parle, la provinciale et sénatoriale, on parle d'élus, mais dont le mandat est prolongé de manière indue. Pour les locales, on a encore à des personnes nommées au lieu d'être élues. C'est encore plus grave.
Vous avez parlé de nomination perpétuelle des personnalités au lieu d'être élues, donc au niveau des entités.
Voilà. Donc,
quand vous présentez les calendriers.
Voilà. Et donc, maintenant, il faut que les instances délibératives puissent avoir lieu. Mais je voudrais aussi dire que les élections urbaines municipales locales ne concurrencent en rien les élections de 2016. Comme vous le savez, les élections se passent à 2015. Et je voudrais dire qu'avant de publier un calendrier, la loi nous oblige à une collaboration interinstitutionnelle. Donc il n'y a aucune institution qui n'a pas été consultée pour savoir si elle s'engage à pouvoir remplir ses prérogatives. Nous avons soumis au Premier ministre un budget pluriannuel 2013-2016. Donc il ne peut plus dire qu'il n'a pas tout. Il a tout le budget de l'ensemble des élections que nous avons évoquées, parce que notre ambition, ce n'est pas d'organiser une élection, mais l'ensemble des élections.
Mais encore faut-il que ces ressources soient disponibles à temps.
Non, maintenant, le Parlement avait déjà voté ce qu'on appelle outil de budgétisation pluriannuelle, qui, dès que c'est adopté, oblige, en fait, le gouvernement et le Parlement a respecté. Alors, si vous avez suivi, la CENI avait annoncé lors des concertations que elle va utiliser aussi, chaque fois qu'il y a un calendrier, un plan de décaissement qu'elle dépose directement au gouvernement, étape par étape. Et je vous annonce que ce plan de la période préélectorale a déjà été déposé et est en cours d'exécution, parce que le Premier ministre a déjà donné deux tranches.
On revient sur le plan de décaissement juste après le flash d'information avec vous, et nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre également en composant les 081-890-6315.
Radio Okapi.
Le bulletin d'information, Pascal Massirika.
Okapi.
Madame, messieurs, bonjour. Les juges de la Cour pénale internationale ont fixé au 13 octobre prochain les dernières audiences dans le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo. Pour mémoire, ce sénateur et président du mouvement de libération du Congo MLC est jugé à La Haye pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Processus DDRRR au Nord Kivu, les centres de regroupement de Mubumbiro, localité située à 25 km de Goma, héberge actuellement près de 500 ex-combattants issus des divers groupes armés locaux. Sur la liste seulement, il n'y a pas un seul ex-combattant du M23. On reste dans la région où la société civile du territoire de Lubero plaide pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans les localités de Bianze, Kitovo, Ndunda et Kalimbo, un groupement de Hutus au nord de la ville de Goma. Selon le président de la société civile, depuis deux mois maintenant, ces entités sont contrôlés par une milice fidèle à un colonel autoproclamé Mumbere Kasauti. Selon la source, ces miliciens commettent quotidiennement des exactions contre la population locale. L'administrateur du territoire de Lubero dit être au courant de cette situation. Joey Bokel affirme que des dispositions sont prises pour mettre fin à cette mésaventure. Et puis, depuis bientôt une semaine, Kalemi connaît quelques perturbations dans l'approvisionnement en eau potable de la Régie des Eaux. Les responsables de cette entreprise étatique attribue ses désagréments à la dernière pluie qui a causé d'importants dégâts matériels dans cette ville le 20 avril dernier. Le directeur de la Régie des Eaux, Kalemi, en appelle à la population au calme. Il ajoute qu'une équipe technique est déjà à pied d'œuvre pour trouver une solution. Ouverture mardi après-midi à Mbujimayi du premier colloque scientifique de l'université protestante au cœur du Congo UPCC. Cette rencontre de 4 jours a pour thème l'insécurité sécurité alimentaire en RDC, pays de lait et de miel. Les participants vont tenter de trouver une explication à ce paradoxe. Et pour l'exercice, l'on signale la présence dans cette ville d'éminents scientifiques comme le professeur Kala Lambu de Kinshasa et d'autres hommes politiques comme Jonas Mukamba. Il est 11h02 à Kinshasa et c'est la fin de ce Flash Info. Merci d'avoir écouté.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous poursuivons avec Parole aux auditeurs, et si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission interactive qui reçoit aujourd'hui pour vous l'abbé Apollinaire Malou Malou, président de la CENI, et pour débattre sur la thématique autour du processus électoral 2013-2016 en RDC, qui atteint sa vitesse de croisière avec la publication lundi 26 mai du calendrier des élections municipales et locales. Michel Letamatadi, Lambert à Kinshasa et Demaga à Dungu, mais nous revenons d'abord à vous, monsieur l'abbé, avant le bulletin d'information. Vous parlez de ce plan de décaissement pour éclairer un peu l'opinion qui nous suit en ce moment.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre une feuille de route et un calendrier. La feuille de route donne un certain nombre d'exigences. On les traduit à calendrier lorsque les institutions concernées ont déjà un niveau d'engagement très élevé. Et donc, comme je vous ai dit, tous les budgets, justice électorale, administration électorale, sécurité électorale, communication électorale, au moins par la régulation des médias, ont déjà été consolidés et donnés au gouvernement en ce qui concerne ces élections urbaines et municipales locales. Mais maintenant, après l'annonce du calendrier, la CENI va remettre au gouvernement ce qu'on appelle le plan opérationnel, avec un calendrier détaillé et un agenda précis. C'est ce calendrier-là que nous allons suivre et un chronogramme. Je voudrais aussi indiquer que, toujours dans le cas de la collaboration interinstitutionnelle, on peut répondre à la question des provinces. La loi qui délimite les 26 provinces, selon l'engagement du Parlement, sera adoptée durant la session en cours. Donc ça signifie que là aussi il y aura une avancée, ce qui va permettre d'ailleurs.
Donc on ne peut pas redouter le non-respect du calendrier. Donc
je ne pense pas qu'on peut redouter le non-respect du calendrier. Ça reste une œuvre humaine, perfectible. Mais je peux vous dire que la CENI met un point d'honneur à organiser ces élections en 2015 parce qu'elle sait que selon la Constitution, 90 jours avant la fin du mandat du président de la République, il faut convoquer le corps électoral. Mais la CENI a tenu à préciser à l'intention de tout le monde qu'en ce qui concerne les élections de 2016, nous changeons de système d'enregistrement des électeurs. L'ancienne loi de 2005 faisait un enregistrement périodique, maintenant ça sera un système d'enregistrement permanent à travers l'état civil, donc le recensement administratif. Donc s'il y a une opération qui peut nous poser problème par rapport à 2016, ce ne sont pas la tenue des élections, mais plutôt c'est ce recensement administratif. Parce que quand on dit données démographiques actualisées, on actualise les données démographiques, non pas par des projections, mais par une identification physique des citoyens. Je pense que c'était là à peu près les éléments que je voulais rajouter.
Voilà. Monsieur l'abbé, on va prendre la toute dernière série des auditeurs. Michel Etamatadi, Lambert Kinshasa et Demaga Dougou. On va leur accorder chacun une minute pour leurs interventions. Michel, vous êtes à Matadi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Comment jugez-vous ces chronogrammes de la CENI? Que faudrait-il faire pour le respect du calendrier?
Trop de regrets au cœur. Vous savez, il faut qu'on puisse bien penser avant de concevoir. Vous devez, monsieur l'abbé doit d'abord se poser la question. Que ce soit en 2006, en 2011, pourquoi lorsque on met un calendrier ou une activité de la CENI, les gens de la majorité sont contents? Et les gens de l'opposition sont en détresse. Pourquoi? Et moi, la question que je voudrais lui poser, quelle relation y a-t-il entre lui et la majorité? Parce que ce n'est pas curieux que chaque fois que nous avançons, il y a un camp qui est dans la joie et un autre camp qui est dans la détresse. C'est parce que, normalement, elle travaille dans la neutralité. La deuxième des choses, vous savez, lorsque vous prenez ce calendrier et vous prenez les derniers les discours du chef de l'État lors de la clôture
de concertation nationale,
c'est vraiment la photocopie. Vous prenez ce que le président a dit par rapport à ce calendrier. C'est comme si c'était une photocopie. Alors, on ne comprend pas, il suit les démarches d'un homme ou il suit, parce que j'ai suivi M. Bonson, qui est aussi un artisan en matière des élections. Lui-même a fait des jugements sur ces calendriers. On ne doit pas dire des choses parce que nous avons le consentement de dire. Non, parce qu'il y a des vues de gens qui sont en ligne.
Voilà, Michel, dans votre question, Michel, votre question principale, c'est que vous voulez savoir quelle relation il y a entre la majorité et le président de la CENI, c'est ça?
Je vous dis.
Voilà, ok. Alors, on va transmettre cette question parce qu'il s'agit là d'une question directe. Monsieur l'abbé, quelle relation avez-vous avec la majorité? Parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'à chaque fois que vous publiez, vous passez à une activité, un camp est très content et l'autre, vraiment, c'est dans le désarroi.
Bon, je pense d'abord qu'on doit dire que la CENI est une institution d'appui à la démocratie. Donc, elle n'a pas de relation avec la majorité de l'opposition. D'abord, il faut savoir qu'elle est composée de 13 membres. On est dans une culture de la personnalisation. On parle de moi à longueur de journée.
Putain, là, il y a l'assemblée plénière.
Il y a une assemblée plénière dont 6 issus de la majorité, 4 de l'opposition, 3 de la société civile. Et donc, pour le moment, ce sont les 13 qui constituent l'organe de décision. Et cette décision a été prise par les 13 membres à l'unanimité, sans aucune abstention, ni un vote contre. Donc, il faut savoir que c'est une décision de la CENI. Mais à l'intention des auditeurs, il faut savoir que la CENI a pris cette décision 3 mois après sa mise en place lors de son séminaire d'imprégnation. Le rapporteur de la CENI, qui lui a les procès-verbaux, a été désigné par, comme vous le savez, l'opposition. Donc là, on est devant une vérité historique. Alors, il faut savoir que la loi oblige la CENI à la collaboration interinstitutionnelle. Donc, il ne faut pas confondre l'institution chef de l'État avec la personne. Parce que la CENI ne peut pas publier un calendrier sans collaboration avec l'institution chef de l'État, avec l'institution gouvernement, avec les institutions parlementaires. Cette concertation est indiquée dans la loi et n'a rien à voir avec la majorité et l'opposition. Et donc, je voudrais confirmer que ce calendrier, cette décision commencée par les locales, n'a pas attendu les concertations nationales. Elle a été prise longtemps avant les concertations nationales. Les archives de la CENI font foi. Et à partir de là, je pense que il faut aussi savoir que le jeu de la démocratie représentative reste le même. Où est-ce que vous avez déjà vu l'opposition qui applaudit les décisions des institutions d'un État? Mais c'est partout dans le monde que lorsqu'une institution pose des actes, s'il y a des partis d'opposition, ils vous diront toujours qu'ils ne sont pas d'accord. Ils peuvent mettre des bémols par citoyenneté ou par patriotisme en disant nous sommes pour ça ou pour cela, ou ils peuvent rejeter en bloc si finalement ils ne veulent même pas qu'il y ait un débat démocratique. Donc il ne faut pas confondre cela. Je vous confirme que la CENI décide à toute neutralité et indépendance et n'a pas besoin de béquilles de qui que ce soit pour le faire, mais elle le fait en connaissance de cause, en tenant compte des contraintes qu'il y a. J'ai saisi l'occasion aussi pour dire qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question sur les opérations de saisie impayées de 2011. Je donne l'information que la CENI, pendant 5 mois, vient d'achever le contrôle physique et administratif sur l'ensemble du territoire national. Nous avons sillonné par nos cadres tous les pays jusqu'à chaque chef-lieu de territoire et chaque ville. Et c'est à l'analyse de ce contrôle physique et administratif que la CENI va certifier un certain nombre de dettes qui concernent les loyers, des bâtiments et les autres. Mais puisque le loyer était impératif, la CENI a déjà trouvé tous les moyens pour payer tous les arriérés des locations de ces bâtiments sur l'ensemble du territoire national. Les élus locaux, pour quel mandat? Non, selon la Constitution, on est élu pour un mandat défini par la Constitution. Donc les élus locaux qui, de 2015 auront un mandat de 5 ans et donc leur mandat se terminera en 2020. Mais par la force des choses aussi, nous sommes en train non simplement de régulariser les arriérés, mais de rendre régulières les opérations électorales, les élections. Parce que la Constitution demande à la CENI de veiller à la régularité du processus électoral. Donc nous aurons désormais un cycle électoral dont les deux dernières années de chaque législature seront électorales selon un rythme de mandat décalé d'un an selon le cas.
Voilà, je ne sais pas si vous allez permettre quand même qu'on vous pose cette dernière question et vous allez répondre à cette question en 30 secondes. Oui. La CENI n'organise pas les recensements, la CENI organise les élections. C'est le ministère du Plan et celui de l'Intérieur qui organise les recensements. Alors, je ne sais pas si ça tombera vraiment à pic que vous puissiez répondre à cette question. À quand l'organisation des recensements par ces deux ministères? Si vous êtes dans les secrets de Dieu.
Non, on est obligé d'abord d'y être, parce que si on annonce un recensement administratif, ça signifie que...
En 30 secondes.
Oui, les listes électorales vont être tirées de ce recensement administratif. Donc nous collaborons sans faute au recensement. Comme je vous ai dit, je vous ai annoncé qu'il y a un préfinancement. On attendra la réponse d'Exim Bank de requête à ce préfinancement pour annoncer l'agenda complet de ce recensement administratif, mais nous appuyons le ministère de l'Intérieur qui en a la charge à travers l'ONIP. On a parlé de table ronde, peut-être vous me permettez.
En 30 secondes,
donc, 30 secondes,
on a consommé pour cette
table ronde, non, la CENI a déjà mis en place un comité de liaison entre elle et les partis politiques. C'est là que nous discutons de toutes les questions et plusieurs cadres de concertation avec toutes les autres parties prenantes.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé Malou. Nous rappelons que vous êtes le président de la CENI. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait le déplacement pour la première fois depuis le début de l'année pour répondre en tout cas aux préoccupations des auditeurs. À très bientôt.
Allô? 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 Mais, ils ne répondent pas?
Voilà, nous disons merci à vous tous qui avez participé à ces débats. On aurait bien voulu vous accorder également la parole, Lambert et les Maga et Maurice. Dommage, ce n'est qu'une partie remise. Je crois que demain, on va revenir sur ça. Dieudonné Nyangassa était à la mise en onde. Noëlla Luzitu a réalisé ce programme présenté et coordonné par J.R. Lou Ngembo sous la supervision de Nikon Daka. On prend rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.